Écho d'économie.
Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, une norme, un test, un certificat accepté partout, voilà de quoi il sera question au cours de la 29e Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de Normalisation, dont les travaux ont débuté ce lundi à Kinshasa. Plus d'une tonne d'or de production artisanale continue d'échapper mensuellement au circuit officiel de commercialisation à cause de la fraude qui persiste dans le secteur. C'est pour ça que des fournisseurs d'or ont rencontré ce lundi à Bukavu la délégation du conseil d'administration de Primera Gold, société de l'État qui a la charge d'exporter l'or artisanal congolais. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la 29e Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de Normalisation, ARSO en abrégé. Ces assises se tiennent sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF ». Une norme, un test, un certificat accepté partout. Cette première journée a été consacrée aux ateliers de formation des experts sur la rédaction des normes. Écoutons M. Mpanga Mbuya Gauthier. Il est le chef de division de développement des normes à l'Office congolais de contrôle et secrétaire de la commission préparatoire de cette 29e Assemblée générale de l'ARSO. Il explique l'importance des normes au micro de Jocelyne Moussaou.
Les normes, c'est là qui régit toute activité, notamment les activités économiques. Sans normes, on ne peut pas évoluer. Sans les exigences normatives, on ne peut pas fabriquer qualité, on ne peut pas s'ouvrir à d'autres économies parce que on ne produit pas les produits qui respectent les exigences normatives. Donc les normes sont impérativement un passage obligé si vous voulez accéder à d'autres économie d'échelle. Il est question dans le continent ici de mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale et cela se passe par l'utilisation des normes parce que d'ici là, les barrières douanières vont tomber et les produits qui ne circuleront, c'est seulement les produits qui auront respecté les exigences normatives. Donc voilà pourquoi l'ARSO, voilà pourquoi l'Office congolais de contrôle ont accepté de pouvoir tenir cette assemblée ici, réveiller un peu les Congolais, de sorte à produire qualité, de sorte à rentrer dans la zone de libre-échange avec les armes qu'il faut.
Et il faut dire que la RDC dispose à ce jour de 1346 normes. L'exportation de l'or artisanal a bondi au sud Kivu. Pour autant, une tonne et demie d'or de production artisanale continue d'échapper par mois au circuit officiel de commercialisation à cause de la fraude qui persiste dans le secteur. Pour arriver à inverser la tendance, des fournisseurs d'or ont rencontré ce lundi 3 juillet à Bukavu la délégation du conseil d'administration de Primera Gold, entreprise du portefeuille de l'État dont l'activité principale est l'exportation de l'or artisanal de la RDC. Compte rendu de la rencontre avec vous, Cynthia Bachi Zinabizana.
Ces fournisseurs d'or ont fait part de principales difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités et qui poussent certains de leurs collègues à se détourner du canal officiel. Maya Malengera, président des négociants du Sud Kivu.
Oui, la difficulté par rapport au prix, il faut qu'on offre un bon prix aux clients, aux négociants, pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller chercher ces prix-là quelque part. Et ce quelque part s'appellerait nos pays voisins et qui faciliterait encore la fraude. Si Primera achète à un prix moins cher par rapport à ce que les négociants donnent, ils auront tendance à ne pas venir et ça nous ramènerait encore dans l'ancien circuit qui consistait à vendre dans les pays étrangers. Voilà bref pourquoi on a voulu à ce que Primera améliore son prix.
Vagheni Paipai, le président du conseil d'administration de Primera Gold, se veut pour sa part rassurant.
Bon, tout tourne toujours autour de la fraude. Étant donné que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des acteurs qui ne respectent pas les prix qui doivent s'appliquer réellement sur le marché.
Cela crée une certaine spéculation, c'est ça ?
Cela crée une spéculation. Mais nous y travaillons et nous allons apporter des solutions. Difficile de vous dire exactement maintenant, avec précision, ce qui est en train d'être fait, mais c'est en cours. Et je pense que dans les prochains mois, vous verrez les résultats.
De 51 kilos en 2022, le Sud Kivu a exporté plus d'une tonne d'or artisanal en 6 mois cette année. Mais les responsables de Primera Gold sont persuadés que la province est en mesure d'exporter un minimum d'une tonne par mois avec tous les gisements aurifères dont elle dispose.
Le projet Formation, Recherche et Environnement dans la Tchopo, projet Forêt en sigle, a présenté le week-end dernier à Kisangani aux experts de la province ses activités agroécologiques menées dans le paysage de Yangambi. Au cours de ces échanges, les associations bénéficiaires de l'appui du projet Forêt pour les activités agroforestières, celles liées à la pisciculture et l'élevage, ont également expliqué l'impact de cet apport. Jocelyne Moussaou nous en parle.
C'est le cas de l'association Akili Nimali de Yanongé. Cette association féminine a doublé par exemple sa production de 5 sacs de maïs à 10 sacs à l'hectare. L'apport du projet Forêt s'est traduit en un accompagnement de proximité dans le long terme, en formant aussi des moniteurs agricoles pour veiller aux bonnes pratiques culturelles au niveau du champ, notamment le choix du sol, l'abandon de l'incinération des champs, la rotation des cultures, la sémie en ligne. Tout en assurant l'approvisionnement des semences de qualité, Hélène Fatouma, présidente de l'association Akili Nimali, explique.
À l'abattage d'arbres, tu payes 70 000, au débousseillage 60 000, puis encore 50 000. Au moment de la sémie, tu payes encore 100 000. Tu payes l'entretien 3 fois, ce sont des charges énormes. Le coût pour planter était très élevé avec un rendement faible, soit 5 sacs, et on travaillait à perte. Mais avec l'appui du projet Forêt, notre rendement est de 10 sacs de maïs à l'hectare. Avec un champ de maïs, nous ne quittons pas les sites, mais nous changeons la culture et passons aux arachides. On regarnit nos champs après sémie. La rotation des cultures et les rendements de notre récolte est garanti.
Notez que le projet Forêt est exécuté par la CIFOR, ICRAF et ses partenaires dans le paysage de Yangambi grâce au financement de l'Union européenne.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie. Les femmes entrepreneurs de Lubumbashi dans le Haut-Katanga disent être confrontées à de nombreux défis qui ne leur permettent pas de bien évoluer dans leurs affaires. Elles ont fait entendre leur voix lors de la célébration le 27 juin de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat, journée initiée pour sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des micro, petites et moyennes entreprises dans la concrétisation des objectifs du développement durable. L'invité de l'économie est Madame Aimé Mayong, femme entrepreneur et coach en entrepreneuriat féminin. Elle s'entretient avec Jean Gandou.
Aimé Mayong, bonjour.
Bonjour Jean Gandou.
Quelle est la situation des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat?
Dans l'entrepreneuriat, je prendrai la situation sur le plan économique. Elles sont très actives, elles sont très présentes, elles sont très engagées. Cependant, elles font face à beaucoup de défis. Je crois que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour les accompagner, mais qui ne sont pas suffisants. Et je crois que ces mécanismes-là devraient être revus assez urgemment pour répondre aux besoins spécifiques des femmes qui se posent dans le monde de l'entrepreneuriat féminin.
Quels sont les défis auxquels elles font face?
Le premier défi, d'abord, je vais parler sur le plan interne des femmes, donc le plan personnel. Les femmes ne sont pas suffisamment formées dans l'entrepreneuriat. Elles entreprennent par nécessité, mais il faudrait qu'elles basculent vers l'entrepreneuriat de croissance. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement un moyen de survie, c'est aussi un moyen de développement de sa propre personne, de son entité et voire même de son pays, parce que à travers l'entrepreneuriat, la femme participe même avec le paiement des taxes et des différents impôts à l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État. Et donc, il faut qu'elle soit formée, qu'elle soit compétitive, qu'elle puisse être aussi professionnelle dans les domaines qu'elles entreprennent. Deuxièmement, ce sont des défis d'ordre financier. Avec l'ancien code de la famille, la femme était limitée par l'accès au pouvoir. Elle n'avait pas accès aux richesses. Tout revenait à l'homme, surtout lorsqu'elle était mariée. Et alors, le nouveau code de la famille donne une ouverture à la femme d'entreprendre sans autorisation maritale, mais ça lui met quand même en retard par rapport à l'accumulation des richesses, ce qui peut lui permettre de constituer des gages, des garanties, afin d'accéder au crédit pour des investissements ou pour la croissance de son activité. Et donc, la femme n'a pas assez de moyens pour faire face aux besoins financiers de son entreprise. Troisièmement, ce sont des violences basées sur le genre, parce que la femme est discriminée, partant des statu quo que nous avons au niveau social, où on pense que la femme femme doit rester à la maison, malgré l'évolution de la loi, malgré la modernisation, malgré l'émancipation. Et le processus d'autonomisation connaît encore des problèmes, des difficultés, parce que les statu quo rattrapent la femme. Et la femme doit se battre contre vents et marées pour s'imposer. Et de l'autre côté, il y a besoin d'une discrimination positive pour répondre aux problèmes essentiels de la femme, afin qu'elles arrivent à surmonter ce genre de violences, ce genre de discrimination.
Mais ces femmes, ne trouvez-vous pas qu'elles se victimisent un peu trop?
Il n'y a pas victimisation. Les femmes ont été victimes de la discrimination et elles sont en train de se démener. Bien sûr, il y a un niveau où la femme joue à l'auto-exclusion parce que c'est un problème mental. Elle s'est dit, la femme est limitée. Il y a des niveaux qu'elle peut atteindre et il y a des niveaux qu'elle ne peut pas dépasser. Mais il faudrait que la femme se libère de cette exclusion-là, qu'elle puisse comprendre qu'elle a le même droit que l'homme et que le monde entier se bat pour l'égalité des sexes. Donc, elle a le droit de pouvoir aspirer à des choses, à des opportunités autant que l'homme. Il n'y a pas une auto-victimisation, mais par contre, il y a une auto-exclusion de la femme parce qu'elle considère qu'à un certain niveau, certains aspects de la vie ne la concernent pas. Il appartient à l'homme de se battre et elle, elle doit se contenter du résultat. Mais c'est quand même la partie des femmes sur laquelle nous travaillons, nous en tant que FEC, nous en tant que réseau pour l'autonomisation de la femme REPAF. Nous nous investissons pour parvenir à amener la femme à l'autonomisation, non seulement économique, mais également intellectuelle.
Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque, ça marche presque pas?
Le train est en marche. Il y a certainement des avancées, même si on n'a pas encore atteint les objectifs attendus ou visés, mais il faut comprendre que ça marche. Ça marche parce que quand vous regardez la majeure partie qui constitue la partie qu'on appelle de l'économie locale, c'est tenu par les femmes. Que ce soit dans les secteurs formels ou informels, ce sont les femmes qui tiennent. Et ça marche parce que les femmes sont en train de comprendre leur rôle, l'ampleur des actions qu'elles ont à mener, des responsabilités qu'elles ont dans la société. Moi, je n'approuverai pas si vous dites que ça ne marche pas, mais je peux dire que c'est une démarche qui est assez laborieuse, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup d'appui et beaucoup d'accompagnement.
Et pourquoi la femme ne veut-elle pas s'informer et s'informer par rapport à son domaine d'activité?
Vous savez que c'est un cercle vicieux à un certain niveau parce que ça demande de moyens. Bien sûr que de plus en plus, il y a des formations qui se donnent assez gratuitement en contrepartie des services, non plus en contrepartie d'argent comme ça se faisait. Il y a des institutions de microfinance qui donnent des formations, mais ce sont des formations taillées sur mesure par rapport aux besoins de ceux-là qui sont en train de donner.
Et même Manon, je vous remercie.
Merci Jean Gandou, merci Madame Aimée Magnon et surtout grand merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter ce numéro de Écho d'économie au plaisir sur www.radiookapi.net.